ذكرنا صيام يوم عاشوراء ويوم عرفة. طيب، وماذا كذلكم الاعتكاف. نعم، donc nous sommes toujours sur le chapitre du jeûne qu'on va terminer aujourd'hui. On avait mentionné la semaine dernière donc certains jeûnes facultatifs. Parmi eux, le jeûne des 6 jours de Shawwal, d'accord? Que j'avais oublié, je pense, de traduire. Allahu a'lam. Je m'en suis rendu compte après, je crois. Hein, le cheikh, il évoque, hein, parmi les jeûnes facultatifs, le jeûne des 6 jours de Shawwal. Naam. Aïna hadha. نعم، قال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. رواه مسلم. عين جي البروفات صلى الله عليه وسلم: celui qui jeûne رمضان et ensuite le fait suivre par 6 jours de شوال, eh bien c'est comme s'il avait jeûné الدهر, c'est-à-dire l'année entière. طيب. قال وهذا الحديث أخرجه مسلم من حديث أبي أيوب الأنصاري قوله كصيام الدهر وذلك لأن الحسنة بعشر أمثالها فرمضان بعشرة أشهر وستة أيام بشهرين يساوي يعني سنة. طيب نعم إدي إيسي شيخ دوك الحديث رابورتي بار مسلم. Donc, siyam ihdar, c'est-à-dire que, à la base, comme vous savez, la bonne action, elle est multipliée par 10. Ça, c'est la base. La bonne action, Allah subhanahu wa ta'ala, il la multiplie par 10. Donc, celui qui jeûne un mois de Ramadan, multiplié par 10, c'est comme s'il avait la récompense de 10 mois. D'accord? Rajoute à cela 6 jours de Shawwal, 6 fois 10, 60, ce qui équivaut à 2 mois. Donc, 10 plus 2 égale 12. Donc, celui qui fait Ramadan puis 6 jours de Shawwal, c'est comme s'il avait jeûné l'année entière. Et s'il fait ça tous les ans, alhamdoulilah, c'est comme s'il avait jeûné toute sa vie. Il a la récompense, yani, du jeûne quotidien tous les jours, sans cesse. طيب. ثم يقول وقال صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. متفق عليه. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة. وقوله عليه الصلاة والسلام لا تشد الرحال، لا تشد الرحال، قال ابن حجر في الفتح: الرحال جمع رحل، الرحال جمع رحل، وهو للبعير كالسرج للفرس. هو للبعير يعني الرحل للبعير كالسرج للفرس. طيب، وكن بشد الرحال عن السفر لأنه لازم، لأنه لازم السفر هذا في الزمان القديم. وخرج ذكرها مخرج الغالب في ركوب المسافر، وإلا فلا فرق بين ركوب الرواحل والخيل والبغال والحمير والمشي، حتى المشي في المعنى المذكور. وفي الحديث نهي عن السفر لأي مكان على وجه الأرض لأجل التعبد فيه، لأجل التعبد فيه إلا إلى هذه المساجد، لأن بقية الأماكن ليس لها مزية، سواء أكانت مسجدا أو قبرا أو بلدا إلى آخره. وأما السفر إلى غير هذه الوجهات لا لأجل التعبد، كالسفر للتجارة أو لطلب العلم أو لزيارة قريب، فليس بمحرم، لأنه ليس في هذه المقاصد تعظيم للمكان. طيب يجي للبروفيت صلى الله عليه وسلم on ne hein, si je traduis littéralement, on ne fixe pas de selle, la selle, un serge, c'est la selle que l'on met sur la monture. Pour le cheval, on dit serge. Et pour le chameau, on dit rahl. D'accord? On ne fixe pas cette selle-là que pour aller dans trois mosquées. Que pour aller vers trois mosquées. Al-Masjid al-Haram, à Mecca. Ou al-Masjid al-Hadha, ma mosquée. Donc, le Masjid al-Nabawi, Médina. Et al-Masjid al-Aqsa, le Quds. Voyez? Non. Donc, le hadith rapporté par al-Bukhari et Muslim selon Abi Huraira. Donc, sa parole, là, touche à tout le rihal. Donc, on ne fixe pas ces selles ou ces harnais. Il dit, Ibn Hajar, al-Rihal, c'est le pluriel de Rahl. Pluriel de Rahl. Et Rahl, comme on a dit, c'est l'équivalent de la selle pour le cheval. Alors, en français, pour le chameau, je ne sais pas comment on dit, mais en arabe, la selle, pour le cheval, on dit serj, et pour le ba'ir, le chameau, on dit rahl. Donc ici, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a utilisé cette image pour parler du voyage. D'accord? Au lieu de dire « La yusafar illa ila kada wa kada », on ne voyage pas que vers ces trois mosquées, il a dit « La tushat al-rihal ». Pour imaginer, mais en vérité, ce qu'il désigne par là, le prophète, c'est le voyage en lui-même. Pourquoi? Parce que à l'époque, quand il voyageait, dans la plupart, voire dans tous les cas, eh bien, les voyageurs installaient leur selle sur le chameau parce qu'ils voyageaient à dos de chameau. D'accord? Mais sinon, il n'y a aucune différence entre le fait de voyager sur Rawahil, c'est-à-dire sur des chameaux, Al-Khayl, sur des chevaux, Al-Biral, sur des mules. Biral et mules, les mulets. Al-Biral, c'est un mélange entre l'âne et le cheval. D'accord? Ou entre l'ânesse et le cheval, si vous voulez. Ou entre la jument et l'âne. D'accord? Donc ce mélange-là, ça donne Baghl, un mulet. Taïeb. Ou Al-Hamir, l'âne. Ou le fait de voyager à pied. D'accord? Donc, quelle que soit en fait la manière de voyager, yani, le hadith concerne donc tout type de voyage. Dans ce hadith-là, on a l'interdiction du voyage pour aller dans n'importe quel endroit sur terre, yani, les ajl ta'abbut, avec l'intention de l'adoration. Que dans ces trois mosquées-là. D'accord? Ton intention, quand tu voyages, il est permis de voyager pour adorer Allah tabarak wa ta'ala dans le but d'adorer Allah que dans ces trois mosquées-là. Car sinon, tous les autres endroits sur terre, hormis ces trois endroits-là, n'ont aucune particularité en plus qui ferait que tu as le droit de voyager vers eux croyant que c'est une adoration d'Allah, que c'est bien de faire ça. D'accord? Que ce soit une mosquée, que ce soit une tombe, ou un pays, ou une ville, que ce soit. D'accord? Quand tu voyages, le fait de voyager vers n'importe quel endroit sur terre, mais pas avec l'intention d'adorer Allah, pour le commerce, pour visiter un proche, pour aller étudier, maintenant, bien sûr, ce n'est pas interdit. Ce qui est interdit, c'est de voyager dans un endroit pour glorifier cet endroit-là. Pour montrer la valeur et l'importance de cet endroit-là. Cela n'est pas permis si ce n'est pour les trois mosquées qu'on a citées. Ça y est? Enfin, Al-Mu'allif, rahimahullah ta'ala, khatama, kitab الصيام بالبقاع التي تشد إليها رحال ويسافر إليها وهي ثلاث بقاع. البقعة الأولى المسجد الحرام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصلاة فيها بكم؟ بمئة ألف صلاة، بمئة ألف صلاة فيما سواه، لقوله صلى الله عليه وسلم: والصلاة في المسجد الحرام أفضل من مئة ألف صلاة فيما سواه. Donc, pour clôturer son chapitre concernant le jeûne, le cheikh mentionne ici les trois endroits dans lesquels donc il est permis de voyager pour adorer Allah tabaraka wa ta'ala. Voyez, le premier endroit, donc la mosquée Al-Haram, la mosquée Al-Haram de Mecca, d'accord. Parce que la prière fi al-haram, il est fi al-masjid al-haram, sa récompense, elle est supérieure à combien? 100 000. 100 000 prières faites ailleurs, excepté la mosquée du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et la mosquée al-Aqsa. D'accord? Mais hormis ces mosquées-là, une prière à la mosquée de où il y a la Kaaba, elle vaut, ou elle est supérieure à 100 000. D'accord? Les savants, ils ont divergé. Est-ce que cela, yani, concerne que la mosquée, yani, de l'Haram, c'est-à-dire qu'en dehors des murs de la mosquée, elle ne vaut pas 100 000? Est-ce que ça concerne, yani, même les mosquées que tu trouves aux alentours de la mosquée? Est-ce que ça concerne tout Al-Haram, yani Mecca, مثلا? Donc il y a plusieurs arcoles là-dessus. Al-Rajihu, la vie le plus correct, Allahu Alam, c'est que ça concerne que la mosquée où il y a la Kaaba. D'accord? La mosquée où il y a la Kaaba. Passer les murs de la mosquée, eh bien la prière n'aura pas cette distinction. C'est la vie des Cheikh Al-Uthaymin, notamment. Rahimahullah. Et la preuve donc de cela, c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit que une prière dans Al-Masjid Al-Haram est meilleure que 100 000 prières faites ailleurs. Est meilleure que 100 000 prières. Donc c'est même pas elle est égale à 100 000 prières, c'est elle est meilleure que 100 000 prières. Sa récompense, yani, est meilleure que 100 000 prières faites ailleurs. Excepté Al-Madina et le Masjid al-Aqsa. D'accord? ثم الثانية المسجد النبوي لأن الصلاة فيه بكم؟ بألف صلاة فيما سواه رحمه الله، لقوله عليه الصلاة والسلام: وصلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف الصلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام. Deuxième endroit, la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, fil Medina. Parce que la prière faite, une prière qui est faite là-bas, sa récompense, elle est supérieure à 1000 prières faites, yani, ailleurs. Excepté encore une fois, al-Masjid al-Haram ou al-Masjid al-Aqsa. La preuve, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit: une prière faite dans ma mosquée, est meilleure que 1000 prières faites ailleurs dans les autres mosquées, excepté la mosquée de Al-Haram. D'accord? Non. Al-Thalitha, Al-Masjid al-Aqsa. L'anna salata fihi. Bikam? 500? 500? 500? 10 000? استمعوا الحديث. قال صلى الله عليه وسلم أو قال أبو ذر عفوا: تذاكرنا بيننا ونحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أيهما أفضل، مسجد رسول الله أم بيت المقدس؟ هم بيت المقدس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 4 صلوات، أفضل من 4 صلوات فيه، أي في بيت المقدس. طيب، ولا نعم المصلى هو. Il dit le prophète, après je vous laisserai répondre. Il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou d'abord le compagnon Abu Dharr, il dit: nous étions en train de discuter pour savoir entre la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la mosquée de l'Aqsa, quelle est la meilleure entre les deux, c'est laquelle. Le prophète, il a entendu ça et il a dit: une prière dans ma mosquée est meilleure que 4 prières dans la mosquée de l'Aqsa. 4 prières. Donc du coup, ça fait combien? 250 et pas 500. D'accord?
250.
Non, 4 fois. Vu que la mosquée de Nabawi, c'est 1000, donc divisé par 4, ça fait 250. Ça y est? Donc une prière effectuée à Beit al-Maqdis, sa récompense, elle est supérieure à 4 prières qui est faite ailleurs. C'est bon, Yahwa? Non. Mais malgré ça, il a dit: donc pour pas non plus dénigrer la valeur d'une prière ou la mosquée de l'Aqsa, il a dit: mais quel beau lieu de prière que celui-là. En parlant de Beit al-Maqdis, quel bon lieu de prière. D'accord? C'est pas parce que sa récompense elle est moindre que celle de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam que c'est pas un bon endroit, au contraire. D'accord? Après, les deux mosquées qui sont Al-Masjid al-Haram ou Al-Masjid al-Nabawi, on a Beit al-Maqdis. Non.
C'est dans quel hadith?
Hadith Abi Dharr. Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, il a authentifié, il a été rapporté notamment par Ibn Asakir. Ibn Asakir, rahimahullah, wa Al-Raba'i. Non.
Le rapport avec
le lien avec Ramadan, avec Siyam, non, Siyam. Allah a'lam.
Je vais demander aussi.
Peut-être c'est par rapport à l'Etikaf.
C'est une question avec le Fatah, par rapport au rien à voir en sujet, c'est le commandant. Sur les 10 derniers jours de Ramadan, il commençait quand? Le 21 novembre?
Le 20.
D'abord, je réponds à la question du frère, après je vais à toi. À mon avis, c'est par rapport à l'itikaf. D'accord? Parce qu'il y a des ulama qui ont divergé sur l'itikaf. Ils ont dit que l'itikaf, on l'a fait que dans ces 3 mosquées-là. Ils disent, tu ne peux pas faire l'itikaf en dehors des 3 mosquées. L'Aqsa, le Haram, le Nabawi. C'est ça le lien, on a fait entre le Bab, le Kitab et le Hadith. Hein? Non. Les 10 derniers jours, on l'a dit la semaine dernière. Vous n'avez pas bien compris alors.
Le 20 à mort. Ça fait le 21.
La nuit du 21.
Commence.
La nuit du 21. D'accord? Le jour, il commence, fait le Maghrib. Donc quand on dit la nuit du 21, c'est le Maghrib qui suit le 20. Qui suit le 20. D'accord? Mathalan, aujourd'hui, avant le Maghreb, on était le 20, par exemple. Avant le Maghreb, aujourd'hui, on était le 20. Après le Maghreb, tu rentres dans les 10 derniers jours. En ce moment-là. Parce qu'après le Maghreb, tu rentres dans le 21. C'est bon? Ok. Alhamdulillah. ننتقل إلى كتاب الحج. يقول: والأصل فيه قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والاستطاعة أعظم شروطه. الاستطاعة أعظم شروط الحج، أي شروط وجوب الحج. اقتصر المؤلف على ذكر شرط الاستطاعة، وقد ذكر الفقهاء أنه يشترط لوجوب الحج خمسة شروط، وهي: الأول الإسلام. الشرط الأول الإسلام. الثاني البلوغ، فلا يجب على الصغير وإن كان يصح منه، لا يجب على الصغير وإن كان يصح منه. الثالث الحرية، فلا يجب على المملوك. الرابع أمن الطريق، أمن الطريق، فهمت؟ أمن الطريق. الخامس الاستطاعة، وهي القدرة على الوصول إلى البيت والمشاعر وأداء المناسك. خلاص أعيد؟ لا. الإسلام، البلوغ، الحرية، أمن الطريق، والاستطاعة. Donc, on passe au livre suivant, au kitab suivant, qui est le chapitre concernant le pèlerinage. Taïeb. Donc, la base, le verset yani, qui sert de pilier dans cette adoration-là, c'est le verset 97, Sourate Ali Imran. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le sens rapproché du verset. Et c'est une obligation pour les gens, hein, vis-à-vis d'Allah, de faire le pèlerinage à la maison pour celui qui en a la capacité. Donc, l'istita'a, la capacité, c'est une des conditions d'obligation du pèlerinage. Et c'est la condition la plus importante, la plus grande. D'accord? Donc ici, l'auteur, rahimahullah ta'ala, a cité qu'une condition, qui est celle de la capacité. Mais il faut savoir que les juristes ont mentionné d'autres conditions, qui, lorsque ces conditions-là sont présentes, rendent le pèlerinage obligatoire pour la personne. Donc ils ont résumé, et ils ont dit qu'il y avait 5 conditions. La première, l'islam. L'islam. Donc, bien sûr, celui qui n'est pas musulman, son pèlerinage n'est pas valide. Deuxième condition, l'bulugh. La puberté. Ça veut dire que l'enfant qui n'est pas pubère, il n'est pas obligé de jeûner. Même s'il a l'argent, même s'il a peut-être la capacité physique, mais tant qu'il n'est pas pubère, il n'est pas obligé de jeûner. Non? De jeûner. Encore d'ici, de faire le pèlerinage. D'accord? De faire le pèlerinage. Mais si il fait le pèlerinage, bien qu'il ne soit pas pubère, son pèlerinage, il est valide quand même. Il est valide. Mais lorsqu'il deviendra pubère, il sera obligé de le refaire. Comprenez? Il aura la récompense, inchallah, de son acte d'adoration. Mais lorsqu'il deviendra pubère, il sera quand même obligé de le refaire. C'est bon? Non. Troisième condition, al-hurriya, la liberté. C'est-à-dire ne pas être esclave. D'accord? Celui qui est esclave, il n'est pas obligé de faire le pèlerinage. Voyez? Mais s'il le fait, les ulama ont dit son pèlerinage, il est valide. D'accord? Mais lorsqu'il deviendra un jour libre, s'il devient libre, il devra le refaire. Une autre fois. C'est comme pour l'enfant. Quatrième condition, amn al-tariq, la sécurité, hein, du chemin. La sécurité dans le voyage. La route que tu vas prendre, il faut qu'elle soit sécurisée. Donc si tu as toutes les conditions, mais que la route, elle n'est pas sécurisée, en temps de guerre ou autre, Là, c'est pas obligatoire. Cinquième condition, la capacité. Donc la capacité, c'est quoi? C'est la capacité d'atteindre l'endroit du pèlerinage, d'atteindre la maison sacrée d'Allah tabaraka wa ta'ala, ainsi que tous les endroits dans lesquels il y a les rites du pèlerinage.
Concernant par exemple, le seul moyen d'aller là-bas, c'est l'avion. Et que la personne a la phobie, elle a la phobie d'avion. Elle doit y aller quand même.
C'est pas mal. Voilà, si elle monte dans l'avion, elle va mourir. Voilà. Non.
C'est
Elle prend un cachet, frère. Voilà. Voilà. Ça n'a rien à voir avec le M. Pourquoi?
Une femme elle est enceinte et que son nouveau sein il a plus de 4 mois. Est-ce qu'il a la récompense aussi? C'est la l'âge?
Le nourrisson.
Le fœtus.
Le fœtus, pardon.
Dans le ventre?
Ouais.
Là. Non, qu'il mette l'intention. Un petit qui fait le pèlerinage, il met l'intention de faire le pèlerinage quand même.
Si j'ai un petit, peut-être qu'il ne comprend pas trop.
Non, non, le petit qui fait le pèlerinage, c'est un petit de 7-8 ans. Il peut faire le pèlerinage. Il est moyen, qui comprend ce qu'il fait et tout. Il fait le pèlerinage, il est récompensé. Mais un petit qui n'a pas encore de témis. Rien, lui, il ne peut rien faire. D'accord? Sinon, on ne dirait pas que son pèlerinage, il est accepté. Si tu veux qu'il soit accepté, il faut quand même qu'il mette l'intention à venir. D'accord? Non. Idan, ta'rif al-hajj, ma huwa, lughatan, huwa al-qasdu. Hajj ya hujju, ay, ya qsid. وشرعا الحج شرعا هو قصد البيت الحرام بأعمال مخصوصة في زمان مخصوص. الحج شرعا هو قصد البيت الحرام لأعمال مخصوصة في زمان مخصوص. طيب، ووجوبه على الفور، هذا مهم، وجوبه على الفور، وهذا هو الراجح. بمعنى من توفرت فيه الشروط وجب أن يحج فورا على الفور، لأن الأمر في الآية للوجوب، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم سارع للحج، ولأنه أسرع في إبراء الذمة. دونك Le mot hajj, dans la langue arabe, ça veut dire al-qasdu. Al-qasdu, c'est la destination que l'on vise. Une destination que l'on vise. Al-tujah. Hein, tujah, l'endroit vers lequel tu regardes, vers lequel tu vas. Al-qasdu. Dans la sharia, al-hajj, c'est le fait de se tourner vers la maison sacrée d'Allah. Se tourner, c'est-à-dire aller en direction de la maison sacrée d'Allah Ta'ala, pour faire des actes particuliers à une période particulière. Ça, c'est la définition religieuse du pèlerinage. Se rendre vers la maison sacrée d'Allah pour des actes particuliers à un moment ou à une période particulière. Il faut savoir une chose importante aussi. C'est que l'obligation du pèlerinage, c'est une obligation qui fait que tu dois le faire, mais tout de suite, sur le moment. D'accord? C'est-à-dire, dès que tu as réuni les cinq conditions qu'on a citées, l'islam, la puberté, l'hurriya, l'anut-tariq, l'istita'a, la capacité, si tu as réuni ces cinq conditions-là, tu n'as pas le droit de le retarder. De dire je vais le faire, c'est pas grave, je le ferai dans 2 ans, 3 ans, 4 ans. Non. L'année où tu es capable de le faire, tu dois le faire. D'accord? Parce que, premièrement, déjà le verset, l'obligation, le amr ici, le verbe indique, hein, Manista'a. Donc, al-nas. Ici, cela indique une obligation. Al-nas. Pour celui qui en a la capacité. Et parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il s'est hâté de le faire également. Il s'est hâté pour le faire. Il n'a pas attendu. Et aussi parce que cela est plus à même de te décharger de cette obligation-là. D'accord? Il faut savoir que le pèlerinage, il est obligatoire une fois dans la vie. Une fois dans la vie. Donc, tu ne sais pas quand est-ce que tu vas mourir. Donc, si tu meurs avant d'avoir fait le pèlerinage, alors que tu avais les capacités de le faire, par négligence, tu l'as délaissé par négligence, tu as commis un péché. Tu as délaissé un pilier de l'islam. Donc, c'est pas n'importe quoi. D'accord? Non. ثم يقول وهي ملك الزاد تكلم عن الاستطاعة هي ملك الزاد والراحلة وفسرت الاستطاعة بملك الزاد والراحلة الصالحين لمثله جاء في ذلك حديث ابن عمر وابن عباس وأنس وعائشة وجابر بن عبد الله وعبد الله بن عمرو بن العاص وابن مسعود قال ابن حجر عنها في التلخيص وطرقها كلها ضعيفة. Puis il dit, c'est quoi l'istita' à la capacité? Eh bien, c'est le fait de posséder les provisions, de quoi manger, de quoi boire, de quoi vivre, c'est-à-dire pour l'aller et pour le retour, والراحلة, et bien sûr, une monture pour voyager. D'accord? Donc, l'istita'a, la capacité ici, elle a été définie par l'auteur comme étant le fait d'avoir la provision et la monture. Une provision et une monture, yani qui convient à la personne. Qui convient à la personne. Non. Il faut savoir que ces deux choses-là, la provision et la monture, a été rapportée par plusieurs hadiths, notamment Sulaym ibn Omar, ibn Abbas, Aisha, Jabir ibn Abdullah et d'autres compagnons, mais il dit ibn Hajar que tous ces hadiths ils sont faibles. Que tous ces hadiths ils sont faibles. Mais malgré ça, yani, au niveau du sens, l'istita'a, la capacité, il n'y a pas de doute qu'il n'y a pas, la capacité, il n'y a pas que la capacité physique, d'accord, mais il y a aussi le fait de pouvoir vivre, d'avoir de quoi vivre durant toute la période de ton pèlerinage. Car sinon, si c'est pour aller là-bas, pour dormir dehors et ne rien avoir à manger, tu n'es pas dans la capacité dans ce cas-là. D'accord? Donc la capacité est inclue dedans, le manger, la boisson, hein, la monture, etc. etc. Là. Ah, bien sûr, c'est pas que pour toi. Si ta famille va avec toi, mais si tu es le seul. Ah oui, pour ta famille qui reste ici, non, bien sûr. Il faut que tu as de, assez de, d'argent et de biens pour pouvoir nourrir ta famille qui est restée à la maison aussi. Donc si tu prends tout ton argent mais tu ne laisses rien pour ta famille, tu n'as pas de quoi laisser à ta famille, de quoi manger, de quoi vivre, tu n'es pas dans la capacité. D'accord? Non.
Et ici, par exemple, le mari il a son pèlerinage et son épouse dans... Comment ça marche si son épouse elle a la capacité aussi physiquement et tout d'y aller? Mm-hmm. Est-ce qu'il est obligé de repartir avec son épouse ou,
Si la femme n'a pas de mahram avec lequel voyager, elle n'est pas dans la capacité. C'est clair? Est-ce que c'est clair ou pas? C'est tant qu'elle n'a pas de mahram. Donc maintenant, si son mari... Il dit, c'est bon, je le fais avec toi, alhamdoulilah, c'est bon. D'accord?
Ah. Donc, c'est une condition qui se rajoute à la femme. Il y a une condition plus le mahram pour la femme.
C'est la condition du safar. C'est la condition du safar. Son istita'a à elle comprend aussi la capacité de la femme. Tu rajoutes aussi, yani, là, le fait d'avoir un mahram. C'est bon? Donc, un mahram, ça peut être son mari, ça peut être son fils pubère ou en âge, hein, de la défendre. في الكاو محرم؟ نو المحرم نو توتور سي والي توتور سي والي المحرم سي اون بيرسون avec qui la femme ne pourra jamais se marier. Ça, son mahram. Son père, son frère, son mari. Enfin, son mari, elle est mariée avec. C'est un mahram pour elle, mais en dehors du mari, le fils, l'oncle, le grand-père, etc. Non, les frères de lui sont des mahrams. Le beau-père, non, le beau-père aussi. C'est bon? Le beau-fils. L'arbre généalogique. Ouais, mais tu as raison. Tu as raison, Naam, de préciser. Il faut savoir qu'à Sihriya, au niveau de l'Ihsan, ils ont un droit aussi important. Ils ont un droit très important sur nous. D'accord? Ceux qui ont un lien de sang avec toi, d'accord? Ceux-là, ils ont un droit sur toi qui est énorme. Tu n'as pas le droit de les ignorer. Tu es obligé de garder contact avec eux. D'accord? Mais les ulama, ils ont fait rentrer dedans également sihriya, ceux qui ont un lien par rapport au mariage. Eux aussi, ils ont un droit sur toi qui est important. D'accord? Et qui est supérieur au droit des autres musulmans qui n'ont aucun lien avec toi. Taïeb? El muhim.
Donc une femme qui habite
à Mecca,
par exemple,
n'a
pas besoin de...
Ah non. Voilà, c'est vrai que... C'est pour ça que je dis c'est le voyage, ça. Comme il a dit le frère, si une femme elle habite à Mecca, elle n'a pas de voyage à faire, donc elle peut faire un pèlerinage toute seule. Hein? Non. Voilà, c'est l'offre. ثم يقول وهي ملك الزاد والراحلة بعد ضرورات الإنسان وحوائجه الأصلية وحوائجه الأصلية مثل نفقته ونفقة عياله ومن تجب عليه نفقته وسداد دينه ونحو ذلك. نعم. Donc, on a dit l'istita'a, la capacité que la personne possède une provision, une rahila, une monture pour y aller. Après, bien sûr, avoir de quoi payer ses besoins élémentaires. Ses besoins élémentaires, ses premières nécessités. Donc, c'est quoi les premières nécessités? Eh bien, toutes les dépenses qu'il doit faire pour lui, déjà. Les dépenses qu'il doit faire aussi pour sa famille. Les personnes qui sont sous sa charge. Ses enfants, son épouse. Donc, comme on a dit, celui qui a de quoi partir, mais qui n'a pas de quoi laisser à sa famille, de quoi vivre, hein, manger, etc., durant son absence, il n'est pas dans la capacité, lui. Il ne part pas. D'accord? Il reste jusqu'à ce qu'il ait assez pour faire vivre sa famille et partir. C'est bon? Non. Et aussi par rapport aux dettes. Celui qui a de l'argent, mais il est endetté, il doit de l'argent. Et il ne peut pas faire les deux en même temps. Il ne peut pas faire le pèlerinage et en même temps rembourser ses dettes. Lui, il n'est pas dans la capacité non plus. D'accord? Lui, ce qu'il doit faire, c'est d'abord rembourser ses dettes. La priorité, c'est rembourser ses dettes. Parce que dans son cas précis, il n'est pas obligé de faire le pèlerinage. D'accord? Donc, il ne fait pas passer une chose qui est pas obligatoire devant une chose qui est obligatoire. L'obligation, c'est de rembourser sa dette. Alors que le pèlerinage, tant qu'il n'a pas les moyens de faire les deux, il n'est pas obligé de faire le pèlerinage. Fahimtoum? Nourdine? T'as compris ou pas? Sûr?
Oui, il peut pas partir sans avoir de dette et après...
Voilà. Non,
donc, s'il part avec les sous de la dette, c'est de l'argent haram?
Non. Non, son pèlerinage, il est valide. Il est valide. D'ailleurs, mais il aura délaissé ce qui lui est incombé de faire, en priorité. D'accord? Il peut avoir commis un péché aussi, si il s'est engagé à rembourser sa dette à tel moment, par exemple, et au lieu de rembourser, il part au pèlerinage, il revient. Il peut avoir commis un péché par rapport à ça, par rapport à son créancier. Taïeb, mais son pèlerinage, lui, s'il a respecté toutes les conditions du pèlerinage, son hajj, il est valide. Il est valide, alhamdoulilah.
Si c'est d'accord avec le créancier,
la baisse. Alhamdoulilah, la baisse. Il n'y a pas de problème. Si le créancier lui dit c'est bon, ben, allez, tu peux, tu me rembourseras après, alhamdoulilah. Taïeb, ومن الاستطاعة أن يكون للمرأة محرم إذا احتاجت للسفر واضح فالمحرم للمرأة من الاستطاعة إذا احتاجت لسفر ودل على ذلك حديث ابن عباس قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم فقام رجل فقال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا وقال انطلق فحج مع امرأتك أخرجه البخاري ومسلم أما إذا كانت لا تحتاج لسفر لا تحتاج لسفر لكونها في مكة أو دون مسافة القصر منها فلا يشترط وجود محرم لها. Parmi également la capacité concernant cette fois la femme, on en a déjà parlé, le fait que la femme ait un mahram avec qui faire le voyage, si elle a besoin de voyager encore une fois. D'accord? Sachant que c'est vrai que pour nous, le hajj c'est synonyme de voyage, mais pas pour tout le monde. Pas pour tout le monde, pas forcément pour tout le monde. Donc le mahram, c'est qui le mahram pour la femme? Déjà, la preuve du fait qu'elle ait besoin d'un mahram, c'est le hadith d'Ibn Abbas, qui a dit, j'ai entendu le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dire qu'un homme ne s'isole pas avec une femme sans qu'il y ait avec elle un mahram. Sans qu'il y ait avec elle un mahram. Taïeb ? Non. Les ulama ont divergé ici par rapport à l'expression « wa ma'aha dhu mahram ». Il n'a pas dit « wa ma'aha mahram ». Il a dit « wa ma'aha dhu mahram ». Voyez ? Donc ils ont divergé, ils ont dit certains qu'en vérité ça peut être soit un mahram à elle, soit un mahram à lui. Donc un mahram à lui, yani la, sa mère, sa soeur, sa tante, mathalan, ou sa fille. D'accord ? En fait, ce qu'il veut dire par là, c'est que pour éviter l'isolement, il suffit qu'il y ait une troisième personne. D'accord ? Donc la femme, si elle est avec son père, il n'y a plus d'isolement. Ou alors l'homme, s'il est avec sa mère, il n'y a plus d'isolement non plus. Alhamdoulilah. D'accord ? Non.
Il faut que ce soit un mahram des deux. Parce que là, j'ai laissé un mahram du côté de l'homme, du côté de la femme.
Ah, tu veux dire qu'une personne qui n'a aucun lien, ni avec l'un, ni avec l'autre, pour éviter l'isolement ? Il n'y a pas d'isolement. L'isolement, le khalwa, le muharrama, c'est quand il y a deux personnes, une femme et un homme, qui sont dans un endroit isolé et qui est préservé du regard des autres. Et que les gens ne peuvent pas entrer comme ça facilement. Là, il y a isolement. Mais à partir du moment où il y a une troisième personne, il n'y a plus d'isolement. Il n'y a plus d'isolement. Taïe ? Non. Puis il dit que la femme ne voyage pas sauf si elle a encore une fois vi mahram, donc un mahram. Donc un homme il a entendu, il a dit ya Rasulallah, ma femme elle est sortie au pèlerinage et moi je me suis inscrit pour telle ou telle expédition, c'est à dire il pouvait pas, il s'est inscrit donc il n'a pas pu partir avec elle au pèlerinage. D'accord? Qu'est-ce qu'il lui a dit le prophète? Il lui a dit, va-t'en et fais le pèlerinage avec elle. Va-t'en et fais le pèlerinage avec elle. Donc le hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. En revanche, concernant la femme qui n'a pas besoin de voyager. La femme qui n'a pas besoin de voyager parce qu'elle habite à Mecca ou les alentours, qui font que la distance n'est pas considérée comme étant un voyage. Dans ce cas-là, elle n'a pas besoin. Elle n'a pas besoin, yani, de mahram. Parce que ce n'est pas un voyage. Donc elle peut faire le pèlerinage sans avoir de mahram à ses côtés. Allahu ta'ala a'lam. Est-ce que c'est clair, les frères? Non. Alhamdulillah. نكتفي بهذا القدر وإن شاء الله نواصل في الدرس المقبل والله تعالى أعلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين